Faire tomber la France et son peuple, c'est le rêve de l'oligarchie anglo-saxonne depuis des siècles. La France est un point stratégique dans le monde pour l'instauration d'un nouvel ordre mondial et l'a toujours été. Pour détruire la France, ils se servent de valets soumis aux idéaux mondialistes comme Macron et tant d'autres. La guerre étant un stratagème dépassé et inefficace à long terme, l'infiltration, la subversion de l'intérieur est un choix clé pour déstructurer un pays. Mais comment les élites ont fait perdre à la France ses racines? Arnaud Develay, juriste et analyste politique, nous répond.
Est-ce qu'ils ont réussi? Je pense qu'il est un peu trop tôt et présomptueux à cet égard de se prononcer sur le sujet. Le peuple français, malgré les assauts répétés dont il subit les foudres, on va dire surtout depuis le départ du général de Gaulle, soit une cinquantaine d'années, vacille mais ne rompt pas. On a pu le voir d'ailleurs dans le contexte du pass sanitaire où, alors même que les Français sont attachés à leurs vacances estivales, leurs congés payés, hein, tels qu'on les appelle depuis 1936, ils se sont mobilisés pourtant en masse, et cela à travers toutes les couches sociales, pour faire front et refuser toute récupération politique. On a pu aussi voir, lors de la séquence des Gilets jaunes, que, encore une fois, les Français ont cet esprit frondeur, et que lorsque le seuil critique, si je puis dire, est atteint, ils sont capables de se mobiliser comme un seul homme. Le problème en France n'est pas tant la capacité du peuple français, bien compris, à faire face. Le problème, c'est l'absence totale de personnel politique qui soit à la hauteur de la tâche qui conviendrait de mener et d'incarner, si je puis dire, les revendications. Maintenant, pour nos téléspectateurs, si on fait un retour en arrière, autant dire que depuis la bataille de Waterloo, essentiellement, en 1815, la France est en déclin progressif. Le Royaume-Uni et l'Empire britannique à l'époque, a donc eu, si je puis dire, a pris le dessus. Et par extension, les élites américaines par la suite au XXe siècle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on peut parler d'une civilisation française qui pourrait présenter une alternative au libéralisme carnassier et sans concession britannique, hein, au sens large, c'est dans le sens, si vous voulez, où pour les élites en question, il est hors de question qu'il puisse y avoir un concurrent. Hein. C'est plus une histoire de concurrence qu'autre chose. Ce n'est pas ciblé contre le peuple français en tant que tel, mais par rapport à ce que ces élites ont essayé d'incarner à tout temps. Hein. Donc c'est une bataille, c'est une guerre en fait fraternelle, parce que les deux peuples sont finalement assez liés de par leur histoire, de par, si on remonte à l'invasion de l'Angleterre par les Normands en 1066, où à l'époque, alors même que le peuple anglais, les gens qui vivaient en Angleterre à l'époque étaient plutôt saxons, donc plutôt des peuplades germaniques, hein, on dirait aujourd'hui. L'arrivée des Normands a complètement latinisé, en tout cas jusqu'à 40% en ce qui concerne la langue anglaise. Et donc, on s'aperçoit que ce sont en fait plus ou moins des peuples très très proches à tout point de vue. C'est juste qu'après, effectivement, au niveau des élites, il y a des divergences qui se sont bien sûr accentuées, une rivalité qui s'est exacerbée. Tout le monde connaît la guerre de Cent Ans. D'ailleurs, il y a eu deux guerres de 100 ans, il faut bien le savoir. Mais le point culminant, c'est vraiment la défaite de Napoléon à Waterloo. Et à partir de là, la France enclenche un long déclin. Et on verra au travers de cette période de 1815 jusqu'à nos jours que Malheureusement, la France est souvent infiltrée d'agents de l'étranger qui sont installés par ces oligarchies étrangères et qui, en fait, œuvrent pour quelque chose qui a comme point commun la disparition justement de la France, de l'État français. Gardons à l'esprit que la France n'est pas tant un peuple qui a construit un État, mais c'est un État qui a construit en fait une nation, hein, avec un pouvoir extrêmement centralisé qui, au fil des siècles, au travers des dynasties qui se sont succédées sur le trône, a méticuleusement, par le biais d'alliances, de mariages et quelquefois de guerres ponctuelles, agrandit donc le domaine royal. Donc c'est une, sans aller jusqu'à dire que c'est une création artificielle, c'est une création qui fonctionne avec un État fort, et pour que l'État reste fort et donc indépendant et donc souverain, il est indispensable que les élites soient acquises à la cause de la souveraineté. Or, encore une fois, la France, depuis au moins 150, 200 ans, souffre en interne d'élites qui sont complètement acquises à des causes qui n'ont rien à voir avec la souveraineté française. On peut citer, ne serait-ce que récemment, enfin beaucoup plus récemment en tout cas, que les guerres napoléoniennes durant l'occupation allemande. Il y avait des éléments qui travaillaient tantôt pour les Allemands, bien sûr, mais tantôt aussi pour les Américains. Et l'Amgott, par exemple, qui est une appellation connue des cercles d'historiens qui ont étudié le sujet, avait pour vocation, par exemple, d'instaurer un gouvernement d'occupation américaine avec, bien sûr, une marionnette française pour faire illusion. Mais l'idée, c'était ça. De Gaulle s'y est opposé. Il était d'ailleurs lui-même extrêmement méprisé par Roosevelt. Et ironiquement, ironie de l'histoire, Churchill était plutôt celui qui servait un petit peu de paratonnerre, hein, mais les Américains n'aimaient pas De Gaulle. Et De Gaulle leur a bien rendu, puisqu'en 1966, il a sorti la France du commandement militaire intégré de l'OTAN et a enjoint les Américains de retirer leurs bases du pays. Après quoi, il a commencé à mener une politique, durant la décennie où il était aux affaires, plutôt axée sur le mouvement des non-alignés, à telle enseigne que lorsque la révolution colorée de mai 68 a essayé de le dévisser, il s'est absenté sans que personne ne sache où il était parti. On a appris qu'il était parti à Baden-Baden en Allemagne, mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en fait, il y aurait eu des contacts avec des membres, des émissaires du Politburo, en tout cas du gouvernement soviétique à l'époque, qui, eux, avaient compris la manœuvre, qui était vraiment derrière ces manifestations estudiantines, et qui avaient donc enjoint, par le biais du Parti communiste français, les travailleurs français donc de l'usine de Boulogne-Billancourt, hein, de rejoindre les ateliers afin d'asphyxier toute dynamique qui aurait mené donc au départ de Gaulle. Les Américains voulaient se débarrasser de Gaulle. Donc, comme on peut le voir à chaque fois, c'est le cas. On le voit de nos jours avec une classe politique, on va dire depuis Jacques Chirac, ça c'est très certain, avec Nicolas Sarkozy qui est plutôt affilié au cercle néoconservateur américain.
Concernant donc François Hollande, les partis socialistes étaient eux travaillaient étroitement avec Charles Rifkin, qui était à l'époque ambassadeur américain à Paris. Et alors même que le mandat de Nicolas Sarkozy se terminait, leur avait plus ou moins intimé de appeler à davantage, je cite, de république, mais au sens de république universelle, en s'inspirant au travers de leur centre de réflexion Terra Nova sur une alliance de minorités, un peu à l'instar de ce que Obama avait réussi à accomplir aux États-Unis. Donc un gouvernement, si je puis dire, composé de lobbies représentant des groupes minoritaires extrêmement actifs, qui soient de même à même de former une coalition et d'imposer donc des projets d'ingénierie sociale sur le peuple français, qui non seulement ne sont pas dans les intérêts du peuple français, bien compris, mais surtout qui ont vocation à attaquer ce dernier, la société française de l'intérieur, en attaquant des fondements comme celui de la famille, comme celui de l'avortement, comme celui de la libéralisation des mœurs, l'instauration de l'idéologie transgenre à l'école, etc., etc. Ce qui fait que le peuple français est constamment en fait sous attaque dans ses fondements les plus élémentaires. Et sur la durée, l'idée, c'est d'affaiblir et de neutraliser toute propension à la résistance. Et avec Emmanuel Macron, on arrive, si je puis dire, au stade suprême, hein. Emmanuel Macron, membre du siècle, membre de la French American Foundation, et diplômé de l'école dite des Young Leaders, qui est une espèce d'appareillage mis en place par le Forum économique mondial à travers toute l'Europe, afin d'installer dans tous les pays européens des gens à eux qui partagent cette idée que l'État en tant que tel est une notion dépassée et que maintenant il faut démanteler toute appartenance nationale, tout sentiment d'appartenance nationale en vue de créer une société qui soit gérée par des fortunes, des intérêts transfrontaliers financiers extrêmement influents, ayant pris possession et ou contrôle de tous les secteurs stratégiques de l'économie, et remettre ça aux mains d'une classe de managers, si je puis dire, où le seul critère qui compte, c'est le maintien du pouvoir par ces gens-là. Et c'est ce qui nous amène donc à la grande réinitialisation incarnée par Klaus Schwab et son livre donc du même nom, où maintenant voilà, les élites antinationales, si je puis dire, passent à la phase finale du plan sous couvert d'une crise sanitaire. Donc c'est un processus d'environ 2 siècles qui est en train d'arriver à son apogée. Et en cela, si les anticorps pro-français, pro-souveraineté française ne parviennent pas à harmoniser leur position et leurs différences et s'unir, ça peut être effectivement la fin de la France, au sens bien compris. Gardons à l'esprit, pour nos téléspectateurs, la remarque suivante, c'est que il n'est écrit nulle part dans le marbre que quelque État que ce soit a pour vocation à durer éternellement. C'est le devoir de chaque citoyen, non pas juste de se prêter à des quelconques mascarades électoralistes, mais de participer pleinement et d'exercer pleinement sa citoyenneté chaque jour que Dieu fait. Et dans ce contexte-là, cela signifie rester informé, rester engagé, rester mobilisé et rester vigilant parce que des élites parasitaires antinationales prennent le contrôle de l'État. À terme, si le peuple ne reste pas vigilant, il risque d'être lui-même victime de manœuvres contre sa souveraineté pleine et entière.